pouvez prendre vos Bibles dans Acte 7. On a lu le chapitre au complet, qui est quand même pas un petit chapitre. 60 versets, c'est quand même un assez long chapitre. Mais on va lire le cœur du chapitre et je dirais, pour ceux qui aiment avoir du contexte, et j'espère que vous aimez avoir du contexte parce qu'un texte pris hors contexte est un prétexte. On parle de Moïse dans le discours d'Étienne ce matin dans Acte 7. Et c'est vraiment important parce que les Juifs, spécialement le leadership spirituel d'Israël, faisaient un grand cas de Moïse. Ils se disaient disciples de Moïse et tout ça. Et c'est au cœur, littéralement, c'est au cœur du discours d'Étienne. Mais le message est tellement christique. En fait, il prend l'exemple de Moïse. Mais quand on comprend, on voit que Moïse est un type de Christ. Et vous allez voir, on a des leçons de ça avec ce qu'on va considérer ensemble. Donc, c'est un message de la bouche d'Étienne, mais sur Moïse, et qui finalement nous parle de Christ. Fait que ça fait un peu par personne interposée, là, mais vous allez voir comment on a des leçons précieuses à tirer de ça ce matin. J'aimerais qu'on commence en lisant les versets 20 à 36. C'est vraiment la section qu'on va considérer ensemble. Puis ensuite, je vais prier puis vous partager une couple de petites choses ici que le Seigneur m'a mis à cœur. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël, et les enviant qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux, alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? » À cette parole, Moïse prit la fuite et il a séjourné dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. » Et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, et je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse, qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Seigneur, on veut s'arrêter, considérer ce passage d'Écriture qui réfère à un passage des Écritures dans l'Ancien Testament et qui, en bout de ligne, Seigneur, te révèle toi. Et Seigneur, quelque chose qu'on voit dans l'histoire d'Israël, c'est qu'Israël a eu de la misère à reconnaître ses libérateurs. Ils n'ont pas reconnu Joseph du temps où est-ce que tu le suscitais comme libérateur. Ils n'ont pas reconnu Moïse. Et bien sûr, malheureusement, ils n'ont pas reconnu Jésus. Seigneur, on veut te reconnaître aujourd'hui dans toutes nos voies. Souvent, à cause de la souffrance, on ne reconnaît pas que tu es là pour libérer. Des fois, on te voit simplement comme un chef et un juge. Aide-nous à te reconnaître, Seigneur, comme le Dieu que tu es notre chef, mais aussi le libérateur de ton peuple. Tu es aussi le libérateur de ceux qui ne te connaissent pas encore. C'est toi qui sauves, c'est toi qui pardonnes, c'est toi qui amènes le salut, la délivrance de tout péché. Et donc, Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse contempler les merveilles de ce que tu as pour nous ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. La souffrance de l'amour, on va parler de ça ce matin. Je vous fais remarquer, c'est sorti un peu dans ma prière, puis même si vous l'avez remarqué, j'ai accentué quand j'ai lu ces versets-là, mais dans le verset 27, hein, celui qui maltraitait son prochain, auquel Moïse s'adressait, il dit « Qui t'a établi chef et juge? » Et effectivement, dans la première mouture de l'intervention de Moïse, c'était pas mal Moïse lui-même qui s'était établi comme ça. On pourrait rentrer dans les dédales de tout ça pour essayer de voir théologiquement est-ce que vraiment Dieu était celui qui l'avait amené à ce point-là 40 ans après avoir été en Égypte. Mais ce que je veux surtout souligner ce matin, c'est que au verset 35, ce Moïse qui 40 ans avant, là, il avait été renié par son peuple en disant « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur. Et donc, j'aimerais qu'on puisse considérer cette vérité ce matin. De reconnaître le Dieu qui délivre, le Dieu qui est libérateur, ou pour y aller avec le thème du mois, Dieu la source, notre source d'amour, le Dieu d'amour qui délivre, et qu'on puisse voir ce Dieu au-delà de l'instrument humain qu'il utilise. Parce que c'était pas mal ça ici. Non seulement avec Moïse, mais il y a Joseph avant qui n'avait pas été reconnu, puis Jésus qui n'a pas été reconnu par la majorité d'Israël. Et même plus que ça, non seulement ils n'ont pas reconnu l'instrument de libération de Dieu, mais ils l'ont même considéré comme un ennemi et comme un juge, alors qu'en réalité, il était leur libérateur. Donc j'aimerais qu'on regarde ça ici parce que c'est une puissante image, une illustration de Jésus-Christ qui, lorsqu'il est venu, hein, était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, c'était le libérateur. Lui qui n'était pas compris alors qu'il voulait faire comprendre les voies de Dieu, le salut de Dieu. Lui qui n'a pas été connu et reconnu, voulait faire connaître le seul vrai Dieu, la voie du salut. Lui qui n'a pas été accepté, offrait pourtant la seule et la plus importante acceptation, celle de Dieu. Et donc, en ce sens-là, Jésus-Christ est littéralement ici l'incarnation de ce qui est illustré à travers Moïse. Et comme on le voit, on était dans ce texte-là la semaine dernière, mais dans Jean 1, ça dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Et Jésus est vraiment l'incarnation ici de cette vérité suprême de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on voit qu'il y a un prix à ça. Ici, le chapitre, on pourrait dire qu'il termine mal, mais en fait, ça a été la clé de voûte qui a ouvert l'expansion de l'Évangile, parce qu'après le meurtre d'Étienne, l'Évangile s'est répandu, ils sont sortis de Jérusalem parce qu'il y a eu la persécution qui a été engendrée suite à tout ça. Mais de la même manière aussi avec Christ, il est venu dans ce monde et il a aimé ce monde, mais il a souffert. La souffrance de l'amour à cause qu'il aimait, il a souffert. Jésus est l'incarnation suprême de cette vérité que je vous répète souvent. Il a souffert pour le bien puis le péché des autres, pas les siens, mais ceux des autres. C'est la souffrance de l'opprobre de la croix. Il en a pris tout le poids. Et ça, c'était le fruit du fait, c'est pas parce qu'il était méchant puis qu'il avait rien de mauvais en lui, en fait, c'est parce qu'il était en relation parfaite avec le Dieu vivant, qu'il marchait avec le Dieu d'amour qui était venu pour faire connaître. Il allait à la source même de l'amour, Dieu lui-même. Mais il a payé le prix de la souffrance de l'amour. Et c'est ça que j'aimerais qu'on considère ce matin. Avec ce discours du premier martyr de l'Église, martyr, ça veut dire témoin. D'ailleurs, en roumain, quand on dit témoin, on dit martyr, comme dans d'autres langues aussi. L'accent ce matin de notre message n'est pas tant sur Étienne que sur celui qui est au centre du discours d'Étienne. Puis je pourrais dire littéralement, c'était comme le clou dans son cercueil. En parlant comme ça de Moïse, puis en l'utilisant comme un type de Christ et tout ça, ça l'accusait très fortement ceux à qui il parlait, parce qu'eux autres, ils se confiaient à Moïse, puis ils disent, vous vous confiez à Moïse, puis vous passez carrément à côté. OK? Donc, ce que j'aimerais qu'on voit, c'est très simple. Deux causes possibles de la souffrance de l'amour. Vous savez, on peut... Puis je pense pas qu'il y en a d'autres. En fait, il n'y en a pas d'autres. Deux causes possibles de la souffrance de l'amour. D'abord, la cause charnelle de la souffrance de l'amour. On voit en verset 25 que Moïse, avec son intervention auprès des gens de son peuple pour venger l'Égyptien, venger cet homme contre l'Égyptien qui le frappait. Ça nous dit au verset qu'il pensait que ses frères comprendraient. Il pensait. Vous savez, ça nous parle de quoi, ça? Ses raisonnements. Ce que lui raisonnait, pensait. Parce que je crois que le problème ici, c'est que Moïse était au-devant de Dieu. Moïse était l'initiateur. Certainement que Moïse avait un sens de mission et d'appel de Dieu. Mais il ne s'est pas attendu à Dieu. C'est lui qui a pris les devants. Et ça, quelle image puissante de ce qu'on est quand on agit par la chair. Moïse avait des bonnes intentions. Mais il n'en reste pas moins qu'il agissait par la chair. Et ça, c'est vraiment une puissante illustration du fait d'aimer mal. Comprenez que, Moïse aimait l'Israélite, il aimait son peuple, il a été élevé par les Égyptiens, mais il avait gardé cet attachement à son peuple, qu'il aimait. Mais il aimait mal, pas parce qu'il faisait du mal, puis il voulait du mal de façon directe. En fait, c'est le contraire. Il voulait faire du bien, mais la source était corrompue. Il faisait du bien, mais pas selon la source de Dieu, de son amour, c'était le soi, c'était la chair. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et ça, mes amis, là, si on est honnête et on fait le tour ici, là, on a tous vécu ça, on a tous fait ça de différentes manières, selon les différents patterns de notre chair, mais c'est comme ça que ça marche la chair. Spécialement chez un enfant de Dieu, on veut faire le bien, mais le mal est attaché à nous, et si on ne marche pas par l'esprit, bon, on va accomplir les désirs de la chair. Ce n'est pas nécessairement des choses qui paraissent aussi mauvaises et corrompues qu'elles le sont, mais savez-vous quoi? Vu que la source est corrompue, l'issue c'est quoi? C'est la mort. C'est la corruption. Ça ne peut pas être bon. Et aucune quantité, aucun niveau de bonnes intentions ne peuvent y mettre la vie de Dieu. C'est ça le problème. Si je veux aider quelqu'un avec toutes les bonnes intentions, mais que c'est ma chair, c'est la mort. Les bonnes intentions ne vont pas mettre de la vie. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui met la vie de Dieu dans ce qu'on fait. C'est pour ça que Jésus a dit « la chair ne sert à rien ». C'est l'Esprit qui vivifie, qui amène la vie. Et donc, la chair nous voue à l'échec. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est dans le texte de Romains 8. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié, est en ennemi contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais Seigneur, je n'ai pas mes intentions, puis je les aime, ces personnes-là, puis je veux les aider. C'est ta chair, ça plaît pas à Dieu. C'est pas les bonnes. Faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est pas les bonnes intentions qui font que ça va plaire à Dieu. C'est vie ou mort, esprit ou chair. C'est une question de dépendance de Dieu. Et ici, le problème de Moïse, pourquoi est-ce que la souffrance de son amour, parce qu'il l'aimait, hein? Le problème, c'est que la source était la mauvaise dépendance. Et là-dessus, il y a quelque chose vraiment d'important ici à comprendre. Quand il dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Bon, est-ce que Dieu l'avait déjà appelé à ce moment-là? Puis est-ce que vraiment c'était là le timing? Je me suis déjà posé la question, vous pouvez vous la poser, on ne va pas s'arrêter trop là-dessus. Mais on peut s'entendre que Moïse avait un sens de l'appel de Dieu sur sa vie. Il y avait un sens que Dieu l'appelait à faire une différence avec ce peuple qui était opprimé, avec ce peuple qui vivait de l'injustice. Et là-dessus, je m'utilise comme illustration ici. Je dois vous parler en tant que pasteur de cette église. Comme Moïse, j'ai été souvent plein de bonnes intentions à faire des bonnes choses. En voyant que Dieu m'appelait à faire ci et à faire ça, à vous aider, à toutes sortes de choses. Et dans mes relations avec vous, combien souvent, et là je dis, au lieu de subir la souffrance de l'amour, parce que c'est souffrant de m'aimer, avec ma chair, avec les tendances propres à ma chair, j'ai pris l'initiative, j'ai voulu faire les choses. Et donc, j'ai été l'initiateur, j'ai écouté mes raisonnements au lieu de Dieu. J'ai pris les devants, j'ai devancé le timing de Dieu. J'ai agi par peur et non par foi. Et combien longtemps et combien souvent je me suis mis dans cette position-là avec les bonnes intentions de la chair. Autrement dit, j'ai pas fait confiance au leadership de Dieu par peur. Il faut pas que ça déraille, puis il faut que ça aille bien. Et vraiment pour ça, du fond du cœur, je vous en demande pardon. Parce que, regardez, j'ai pas d'excuses. Les excuses de la tromperie, ah, j'ai été trompé, c'est vrai. Puis j'étais sincère. Mais c'était les œuvres de la chair pareil. C'était par orgueil, puis par la peur. Donc, je ne l'ai jamais confessé publiquement comme ça, puis je le fais ce matin. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment salutaire, parce que Dieu est déjà à l'œuvre, puis Dieu est déjà au-devant de ce que je suis en train de parler là. Mais j'avais besoin de le faire en tant que pasteur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je sais qui a fait, qui a causé des dommages dans vos vies personnelles, de couple et de famille. Et ça, c'est ça. Peut-être qu'il y en a qui m'en veulent pour ça. C'est pour ça que je vous demande pardon, parce que le mal est fait. Mais je sais que l'amour de Christ, puis la bonne disposition de votre part, et cet amour, justement, qui couvre une multitude de péchés. Je suis confiant que Dieu va rebâtir et continuer son œuvre comme il l'a fait déjà tellement de tellement belles façons depuis maintenant. Et maintenant, pour retourner à notre texte ici avec Étienne et le leadership d'Israël, comme avec Jésus, OK, parce qu'ici, le leadership d'Israël est en relation avec Étienne, mais avant, il avait été en relation avec Jésus. Bien, il se sentait menacé par l'autorité de Jésus. Puis là aussi, il se sentait menacé par l'autorité avec laquelle Étienne y parlait. L'insécurité. Ça a comme rapport aussi avec les affaires que je viens de vous parler avant. Pour moi, personnellement. Puis depuis que je commence à apprécier puis à vivre la sécurité que j'ai en Jésus, bien, la puissance de cette peur est brisée. Mais ici, il y avait vraiment cette question, il se sentait menacé par l'autorité de Jésus par laquelle Étienne proclame son message. Mais il y a une ironie dans notre texte ici. C'est que l'autorité qui était conférée à Moïse là, dans le texte, puis je vous l'ai dit au début, il dit hey, c'est qui t'a mis chef hein, en autorité pour être notre juge? En fait, l'ironie, c'est qu'ils ne comprenaient pas que c'était pas pour être leur juge, c'était pour être leur libérateur. Ils voyaient comme une menace, alors qu'il était celui qui était là pour les libérer. C'était pas une autorité pour détruire, comme Paul le dit aux Corinthiens, c'était une autorité qui était donnée pour l'édification. Mais encore, pour pousser l'ironie encore plus loin, vu qu'ils l'ont rejeté comme libérateur, Jésus l'ont rejeté comme libérateur, il est devenu leur juge. 70 après Jésus-Christ, la ville de Jérusalem a été détruite parce qu'ils ont rejeté leur libérateur qui est devenu leur juge. Et vous savez, c'est vrai pour quiconque ici ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel. Jésus se présente à vous maintenant comme le libérateur. Il sauve quiconque s'approche de lui par la foi. Mais si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne l'acceptez pas comme celui qui peut vous libérer de la condamnation du péché, de la puissance du péché, un jour vous allez vous tenir devant lui comme votre juge. Donc, comme ça dit dans Hébreux, que personne ne paraisse être venu trop tard. Mais mettez votre foi dans celui qui sauve encore aujourd'hui. Et pour nous ici, les enfants de Dieu, en ce qui nous concerne, je rends gloire à Dieu du fait, puis ça me fait tellement apprécier sa grâce, du fait que même si dans le passé j'ai été en relation avec lui puis avec vous, comme si Dieu était mon juge, puis comme si moi j'étais selon la pensée de la loi avec vous autres, gloire à Dieu, Dieu s'est présenté à nous comme notre libérateur. Puis on expérimente la liberté de la peur. Je vous dis, ce qui se passe dans notre église là, depuis déjà, ça fait plus qu'un an, c'est que Dieu brise la puissance de la peur. Dieu est notre libérateur. Parce que la peur, là, dans une vie chrétienne, là, c'est fou ce que ça fait. On ne veut pas être vrai avec les autres, on a peur qu'ils nous jugent, puis aussi quand on a peur, on va juger les autres. Puis là, ça donne des relations vraiment tendues, puis pas vraies, puis l'hypocrisie, puis tout ce qui vient avec. Et Dieu, dans sa bonté, est en train de briser ça. C'est pour ça que je me sens pas menacé, je me sens pas en danger d'être vrai avec vous autres, parce que cette puissance-là est brisée. Peut-être que là, je sais pas combien de temps j'aurais jamais osé parler de même. Mais je sais que Dieu est à l'œuvre, puis que ça fait partie de cette œuvre de libération, justement. Et ça m'amène à la deuxième cause possible de la souffrance de l'amour. Ça peut être par la chair. Puis je vous l'ai confessé, moi j'ai bien souffert dans ma vie à cause de ma propre chair, puis je n'ai fait souffrir d'autres, OK? Mais aussi, la deuxième possibilité, il peut y avoir la cause spirituelle de la souffrance de l'amour. Ça peut être la chair, mais ça peut être l'esprit. Regardez au verset 30 ce que ça dit. C'est quoi les premiers mots? 40 ans plus tard. Ça, c'est 40 ans d'apprentissage spirituel de Moïse. Il a appris à aimer. Il a appris à dépendre de Dieu. Il a appris c'est quoi la vie de la foi. 40 ans avant, il était prêt, Seigneur, let's go, puis la chair avait les devants. 40 ans plus tard, il apprenait que, attends un peu, là, la chair, ça sert à rien. Bon, il n'y avait pas les mots de Jésus encore, là, la chair, ça sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais Dieu l'a enseigné, ça c'est certain. Il a appris à mettre Dieu en premier, puis ainsi à défendre. Écoutez bien, là, c'est facile, la vie de Moïse, c'est 3 fois 40. Il a vécu 120 ans, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, puis 40 ans avec la libération du peuple de Dieu. Ben, le 40 ans du milieu, là, ça a été l'apprentissage pour ce qui venait, mais aussi ça a été, puis là, permettez-moi l'expression, le désapprentissage de tout ce qu'il avait vécu pendant 40 ans en Égypte. Il avait appris les voies du monde. Il avait pris pas mal de mauvais plis. Là. Ça nous dit qu'il avait été éduqué selon la sagesse et la puissance des Égyptiens. Hey, c'est pas pire, ça. Hey, c'est une bonne sagesse, de la puissance. Enfin, Dieu a dit ça ne sert à rien, ça. Mes amis, il y a quelque chose de fort là-dedans. Notre chair a appris des bonnes affaires, là, des bonnes façons de s'en sortir, là, selon la sagesse et la puissance de ce monde. Mais si ça prend 40 ans, ça prendrait 40 ans pour dire que Dieu nous dit ça ne sert à rien, ça, mon ami. C'est pas comme ça que mon royaume se bâtit. C'est pas comme ça que ma libération s'expérimente. C'est pas avec la sagesse et la puissance des Égyptiens. Fait que ça prendra peut-être 40 ans, mais sais-tu quoi? Faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris. Ah, tiens, ça ressemble peut-être à Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez, que vous compreniez que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, puis elle est parfaite. C'est ça qu'il a vécu pendant 40 ans. Il a vécu un nouvel apprentissage. La voix de Dieu est tellement meilleure que celle du monde. Et foncièrement, c'est ça d'apprendre à aimer. C'est ça la voie de la souffrance de l'amour, qui n'est pas selon notre sagesse, mais qui est selon la pensée de Christ qui habite en nous, qui n'est pas selon notre force, hein, sagesse des Égyptiens, non, celle de Christ. Puis, qu'est-ce que l'Éternel dit dans Zacharie? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, sagesse et puissance des Égyptiens, ça ne sert à rien. C'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Vous pouvez y tourner, mais regardez dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, deux textes importants ici pour appliquer ce qu'on est en train de considérer. 2 Corinthiens, chapitre 3, qui parle de notre capacité, qui parle du ministère de l'Esprit dans la nouvelle alliance sous laquelle nous sommes. Et au verset 5, ça dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Regardez aussi le verset 17 et 18. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ces versets nous parlent du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Et savez-vous quoi? Cet apprentissage de l'Esprit, ce n'est pas la configuration par défaut. C'est pas « Ah ben tiens, ma chair va s'améliorer, puis là je vais marcher selon les voies de l'esprit. » Non, ça s'apprend, et je dirais ça s'apprend douloureusement à l'école de la souffrance. Et là je vais vous développer un peu ça parce que c'est important qu'on en parle. Mais je vais même en mettre plus. À l'école de la souffrance, on pourrait dire la communion des souffrances de Christ. À l'école de l'échec, ou des affaires qui ne vont pas comme on aurait voulu. « Hey Seigneur, peux-tu m'enlever cette écharpe dans la chair? » Non, Paul, je t'ai donné tellement des grandes révélations merveilleuses, je te laisse parce que ma grâce te suffit. Ou à l'école des déceptions. On peut être déçu des fois par les personnes. Hein? Écoutez ce que Paul dit dans Philippiens. C'était triste. Des fois, tu regardes la vie de Paul, tu dis « Ouais, c'était pas un des vacances, toutes dépenses payées en Méditerranée, là, les voyages missionnaires de Paul. Écoutez ce que c'est dit dans Philippiens 2. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ça, c'était l'école. C'est la douloureuse école de la souffrance, de l'échec et de la déception, par lequel on apprend à aimer, par lequel on apprend à souffrir pour le bien puis le péché des autres. C'est souffrant d'aimer. C'est la communion des souffrances de Christ. Encore, je vous demande, vous êtes dans 2 Corinthiens, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens chapitre 13. Un passage connu. Mais si on dit, vous voulez faire votre pense-bon, là, ça vous arrive-tu des fois, vous voulez faire votre pense-bon, là? Hey, moi, je suis un bon chrétien, là, puis... Moi, j'aime vraiment, là. Tu sais, parce que souvent, quand on se dit qu'on est un bon chrétien, c'est parce qu'on est un expert de la vérité. Hey, moi, je connais la Bible, puis je connais tout, je suis capable de bien discerner, de dispenser droitement la parole de vérité. Mais ce que 1 Corinthiens 13 fait, il nous teste sur l'amour. OK, tu connais bien la vérité. Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que ton amour est christique? Est-ce que ton amour est par l'esprit? L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Je suis au verset 4, excusez. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mes amis, c'est là l'un des passages les plus réalistes et donc douloureux pour notre chair. Tu sais, notre chair, elle peut être très trompeuse. Notre chair peut se justifier en disant, « Ben, je suis pas si pire comme chrétien. Quand même, moi, je trouve que j'aime quand même assez bien. » Passons-nous au test ici, là. Est-ce que vraiment je souffre pour le bien puis le péché des autres à la lumière de ces versets-là qu'on vient de lire? Et là, je vais amener une leçon tellement importante sur la cause spirituelle de la souffrance de l'amour. On sait que la chair, on connaît bien ça, mais pourquoi j'irais pas à la cause spirituelle? Pourquoi j'irais pas par l'esprit, le ministère de l'esprit qu'on considère depuis quelques instants là, dans le deuxième point? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La parole nous appelle à croire où? C'est où qu'on croit? Dans notre cœur. Puis c'est où qu'on s'humilie? Écoutez Isaïe, il va nous dire lui où qu'on s'humilie. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. La contrition, l'humiliation, c'est dans le cœur. C'est pas quelqu'un qui dit, ah ben là je pense à Dieu, puis là je m'humilie. Non, c'est quelque chose du cœur, du fondement de notre être. Donc, la foi, l'humilité est dans le cœur. Les raisonnements et les imaginations, pour leur part, où sont-elles? Où sont-ils? Dans notre tête. La cabeça.
La caboche.
La caboche. Et donc, la souffrance de l'amour, c'est le passage dur et implacable de là à là. Et là, c'est vraiment le fort de mon message. Où est répandu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit?
Dans nos cœurs.
Dans nos cœurs. Donc, si je veux aimer, si je veux aimer de façon christique, c'est où que ça va se passer?
Dans le cœur.
Dans le cœur. C'est pour ça que ça fait mal. Dieu frotte, il gratte dans le fond du cœur. Parce que nos pensées, on peut avoir toutes sortes de pensées et des raisonnements. Dieu dit qu'il faut amener ça à captif à l'obéissance de Christ. Notre cœur, c'est là que réside. Vous savez, notre cœur, c'est intéressant. Parce que c'est vraiment, c'est le cœur de la question. C'est là que tout se joue. Parce que c'est là que réside notre volonté, notre pensée et nos émotions. OK? Et la douleur et la souffrance parviennent lorsque notre volonté, notre pensée, nos émotions dans notre cœur rentrent en collision avec la volonté de Dieu, sa pensée, ses émotions, parce que l'Esprit de Dieu communique dans nos cœurs sa pensée, sa volonté, ses émotions. Puis c'est ça le choc des deux. C'est ça l'apprentissage de l'amour. C'est quand il y a notre volonté qui s'oppose à celle de Dieu, nos pensées à celle de Dieu, nos émotions, nos sentiments, nos motivations avec celle de Dieu. Tout se joue au niveau du cœur. Et donc, la question est la suivante. Qui règne dans mon cœur? Moi ou Christ? On peut le dire autrement. Qui décide? Qui initie? Qui a l'autorité finale? Et c'est ce qu'on voit avec Moïse. Au début, après 40 ans en Égypte, Moïse était là, Seigneur, je suis prêt, puis je veux. Mais c'était qui l'initiateur? C'était qui dirigeait son cœur? C'était lui. Puis le 40 ans dans le désert l'a amené à ce que Christ règne dans son cœur. C'est ça que ça l'a fait, les 40 ans dans le désert. Dieu nous place dans des situations et des relations non seulement difficiles, mais parfois intenables. Intenables, où soit nous sommes brisés par la soumission et la dépendance à Dieu. OK? Ou, ça c'est l'option numéro un, je suis brisé par Dieu. Ou, c'est moi qui brise. je refuse d'être brisé. Et donc, moi-même, je me brise par ma volonté propre. Je vous donne un exemple, une couple d'exemples. Cette personne que vous savez que vous devez pardonner, puis vous tenez encore les rênes dans votre cœur, que vous ne voulez pas pardonner, parce qu'elle vous a vraiment fait du mal, c'était vraiment injuste ce qui est arrivé. Ça fait peut-être des années. Cette situation, cette relation, est-ce que le Seigneur vous demande de décrocher, d'arrêter d'essayer, d'arrêter de vouloir être au contrôle? Cette blessure qui fait mal encore après même des années, que le Seigneur veut que vous laissiez aller, que vous lui apportez à lui, le médecin de nos maux, le baume de Galaad. Cette blessure qui fait mal, qui est légitime, puis que vous pouvez justifier, puis peut-être que vous l'avez justifié pendant des années avec toutes sortes de raisonnements, au point que c'est devenu une forteresse dans vos cœurs. C'est de ça qu'on parle. C'est ça la souffrance de l'amour. C'est ça le prix d'aimer. C'est avec ces affaires-là. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on décroche. Quand on aime, on laisse celui qui nous aime au-dessus de tout guérir les blessures. Et c'est dans des situations comme ça qu'il devient évident qu'on ne peut pas plaire à Dieu avec nos raisonnements et nos pensées. Essayez avec les affaires, je vous dis, ah là, j'ai trouvé une solution, puis une recette, puis avec... Essayez avec votre tête de régler ces problèmes-là. Ça ne marche pas. Il faut que la grâce de Dieu descende dans nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient touchés par l'Esprit du Dieu vivant pour que ces choses arrivent. Puis pour ça, il faut qu'on cède, il faut qu'on s'abandonne, il faut qu'on arrête d'essayer, comme on l'a fait peut-être pendant des années, en se justifiant avec des raisonnements, puis qu'on s'humilie devant Dieu. Je vais vous dire ça avec d'autres mots, ça va peut-être vous aider à comprendre. Il faut abandonner complètement les pièges et les dédales de l'arbre de la connaissance. Ah, je vais faire ci, ça va m'aider pour ça. J'ai appris ci, puis ça, OK? Il faut s'en repentir, il faut choisir la vie. L'arbre de vie. Christ, notre vie. Parce que c'est Dieu qui a dit, je mets devant vous la vie puis la mort. La situation dont on parle, là, peut-être qu'il vous blesse et tout ça, c'est un choix de vie ou de mort devant vous. C'est pas une question de bien puis de mal, puis il m'a fait du mal, donc j'ai raison d'y en vouloir moi aussi. Ça, c'est la mort. On a un choix de vie, mais c'est un choix de cœur. C'est pas superficiel. C'est pas simplement cérébral. C'est profond. C'est viscéral. C'est pour ça que tellement souvent, et par tellement de peine et de souffrance, Dieu nous fait passer de la tête au cœur. De la théorie à la pratique. Pour ça que je vous dis, le message est douloureux ce matin. Parler d'amour, c'est pas toujours romantique. Regardez l'amour de Christ. C'est pas romantique son amour. C'était souffrant. Mais c'était l'expression suprême de l'amour. Et donc la souffrance de l'amour de Christ, et de vivre cet amour par l'Esprit qui est répandu dans nos cœurs, c'est pas toujours évident. Et ce qu'on voit à la fin du chapitre, et on va pas le lire au complet, mais on voit que le peuple se rebellait. Moïse les aimait. Moïse s'est laissé enseigner par Dieu. Moïse a appris à les aimer de façon christique. Mais ils n'ont pas bien répondu. Ils se sont révoltés, ça dit, alors Dieu se dit, ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, imaginez-vous que Moïse il avait été à la bonne école, là, puis il les aimait, puis il avait cette dépendance, il les aimait de façon christique, puis il dit, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Moïse s'est laissé enseigner par Dieu, il a appris à aimer, la réponse était vraiment poche. Était vraiment pas selon ce que Moïse aurait pu s'attendre. La rébellion, l'idolâtrie humaine nous heurte. Et souvent, c'est là que beaucoup, étant heurtés à ça, vont s'enfoncer. Parce que la chair qui répond par la chair, la chair qui répond à la chair, tu sais, quelqu'un m'a fait du mal avec sa chair, je ne dirais pas que ma chair, ça ne sert à rien. Puis Moïse avait cette tentation-là, parce que là, Moïse était dirigé par l'Esprit, là, 40 ans, là, puis c'était un homme de Dieu qui dépendait de Dieu, puis Dieu était à l'œuvre dans sa vie. Mais la réponse était tellement pas réciproque, absolument pas. C'était frustrant. C'était choquant. Et souvent, c'est là que beaucoup d'entre nous décrochent. Comme parents, des fois comme dans un couple, dans une église. « Hey, Seigneur, j'apprends tes voix, puis je marche par l'esprit. Comment ça que les autres, ils comprennent donc ben pas? Comment ça que... qu'ils sont rebelles de même? » Ben, c'est avec ça que je conclue. C'est là que vient le choix, encore plus, de continuer à dépendre de Dieu, de demeurer en lui. Parce que, tu sais, ça peut être la théorie, tout ce qu'on a appris. Seigneur, j'apprends à marcher ton esprit. Mais la réalité là, de notre foi, de marcher par l'esprit, d'être affranchi de la loi du péché puis de la mort par la loi de l'esprit de vie qui est en nous, c'est là que ça se passe. C'est là qu'il faut dire, Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as fait, mais je vais tout le temps dépendre de toi. Je veux continuer à dépendre de toi là-dedans. Parce que tu quoi? Alors que tu guéris mon cœur, j'ai des nouvelles blessures. C'est quand même assez... c'est pas très évangile de la prospérité, mon message le matin. Là. Mais je veux terminer avec ça. Mais c'est le trésor de Christ. On a peur de souffrir. Puis la chair, là, tu dis souffrance, la chair à part à courir de l'autre bord. Elle veut rien savoir de souffrir. Mais l'Esprit de Christ en chacun de ses enfants, vous êtes un enfant de Dieu, l'Esprit de Christ en vous soupire après Christ. Et ne laissons pas la souffrance. La souffrance relationnelle, la souffrance de souffrir pour le bien puis le péché des autres. Ne laissons pas cette souffrance puis tout ce qui va avec nous priver de la grâce de Dieu, nous priver du fait de découvrir Christ comme étant notre plus grand trésor, parce que c'est là qu'il est. Étienne, pensez-vous qu'il est mort avec des regrets, puis il est mort honteusement, il est mort glorieusement. C'est le premier martyr, puis quand il est mort, même, bon, il y avait tous les gens qui tiraient des roches, qui a fini par enlever sa vie. Mais il a vu la gloire de Dieu puis il a prié pour celui qui était en train de faire du mal. Pour moi, c'est pas mal une mort glorieuse, ça. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et donc, voulez-vous le cauchemar de dépendre de la chair puis de l'arbre de la connaissance pour essayer d'aimer les autres? Ou voulez la beauté et la grâce de dépendre de Dieu le Saint-Esprit, pour découvrir et apprécier le Dieu vivant? Donc, où tu te situes ce matin? Dans quel domaine que tu es? Pour l'amener avec ce qu'on a amené, es-tu dans le domaine cérébral? Est-ce que ta foi, c'est des choses que tu penses, ça, mais qui n'ont pas descendu jusqu'au cœur? Et comment ça descend? C'est quand ça fait mal. C'est quand ça fait mal. C'est quand ça vient nous écorcher jusqu'au fond. C'est là que Dieu fait descendre ses vérités précieuses dans nos cœurs. C'est là que Christ devient précieux. Apprendre à aimer, c'est coûteux. Ça fait mal d'aimer. Mais savez-vous quoi? Si on aime mal, selon la mauvaise source, ça fait mal ça aussi. C'est bien mieux d'aimer comme Dieu, parce qu'avec lui, c'est merveilleux. Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Et Dieu ne laisse pas dehors ceux qui viennent à lui. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvés, vous ne connaissez pas encore le vrai amour. Considérez celui qui est mort pour vous. Et peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu ce matin, le prix de la souffrance de l'amour t'a fait décrocher. Ça, c'est ma dernière phrase. Écoutez bien. Le prix de la souffrance de l'amour t'a fait décrocher. Mais moi, ma seule phrase, c'est accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est bon que tu décroches de ta chair, mais de grâce, décroche pas complètement, accroche-toi à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta patience et ta grâce envers nous. Seigneur, t'es bon, t'es patient. Et Seigneur, c'était un message difficile le matin. C'est pas romantique l'amour christique, c'est souffrant. En fait, il y a même toute la laideur du péché qui est là-dedans. Toute la souffrance. Mais Seigneur, c'est pas à ça qu'on regarde, parce que ça nous garde dans la servitude, dans l'amertume, dans toutes ces choses-là. Seigneur, ton amour répandu dans nos cœurs, qui accepte de souffrir pour le bien et le péché des autres, nous fait découvrir le Dieu d'amour, nous fait découvrir toi. Seigneur, qu'on voit au-delà de ce qui fait mal, et qu'on te voit toi, qui nous appelle. Seigneur, merci que tu te laisses découvrir, que tu viens à nous, au beau milieu de la souffrance. Seigneur, merci que ton amour n'est pas de ce monde. C'est pour ça qu'on souffre lorsque tu aimes à travers nous. Lorsqu'on te laisse nous apprendre à aimer. Comme Moïse. Il n'a pas eu ben de récompense ici-bas. Il n'a même pas pu rentrer dans la terre promise. Mais ta parole dit qu'il a été fidèle dans toute ta maison. Il s'est accroché à toi. Seigneur, c'est ce qu'on fait. On s'accroche à toi. Que personne ici ne décroche, ne lance la serviette. On s'accroche à toi, notre Dieu. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez prier.